Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM. On va faire maintenant un point sur les ordonnances réformant le Code du travail prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Dans la foulée de la loi promulguant l'état d'urgence sanitaire qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance, c'est-à-dire sans discussion préalable au Parlement, la ministre du Travail a présenté mercredi 25 mars en Conseil des ministres trois ordonnances dérogatoires au Code du travail pour une durée de 9 mois. Dans les secteurs des transports, de la logistique, de l'énergie, des télécommunications, de l'agroalimentaire et de l'agriculture, les entreprises seront autorisées à faire travailler leurs salariés jusqu'à 60 heures par semaine, contre 48 actuellement, et 48 heures pendant 12 semaines consécutives, contre 44 aujourd'hui. L'amplitude horaire du travail sera également augmentée et pourra atteindre 12 heures de suite, pendant que conséquemment, les périodes de repos minimales seront réduites de 11 à 9 heures entre les périodes travaillées. Ces entreprises bénéficieront de dérogations pour faire travailler leurs salariés le dimanche afin de permettre le maintien de leur activité 7 jours sur 7. Les employeurs auront désormais la possibilité d'imposer les congés payés dans la limite de 6 jours ouvrés, une semaine, et pour une période de 6 mois maximum. Si cette disposition reste soumise à un accord de branche, il n'en va pas de même pour les RTT, les jours au forfait et les jours de compte épargne-temps qui seront posés à la discrétion de l'employeur. Toutes ces ordonnances dérogatoires au droit du travail du reste des salariés prendront effet immédiatement après leur promulgation et seront valables jusqu'au 31 décembre 2020. Elles restent cependant soumises à l'avis du Conseil d'État qui appréciera probablement le caractère exceptionnel et temporaire de leur durée. Alors bonjour camarade Bob, tu es animateur de l'émission Mode d'emploi, version secret de fabrication, tous les troisièmes vendredis du mois et enfin connaisseur du droit de travail. Alors à ton avis, y a-t-il un risque que le provisoire de ces ordonnances s'inscrive dans la durée? Et on pourrait prendre pour exemple les lois sur l'état d'urgence qui sont passées dans le droit commun. Est-ce que y a-t-il un risque, à ton avis, que les lois, les réformes de ce code du travail durent?
Ben, écoute, franchement, c'est un peu difficile de dire ça maintenant parce que nous sommes en pleine situation de pandémie. C'est dans la durée, c'est des objectifs que le capital a toujours eu. Bon, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, est-ce que c'est des objectifs qu'on va voir ressurgir? Oui, sur le long terme, c'est ça qui est leur objectif. Maintenant, est-ce que ce qu'on voit là aujourd'hui, ces espèces d'ordonnances passées dans le dos pour prétexte d'une pandémie qui ne va pas durer jusqu'à… Voilà, elle ne va pas durer jusqu'à décembre, la pandémie.
Oui, mais alors justement…
Si on fait ce qu'il faut, dans un mois, on n'en parle plus. Hein.
Et justement, alors, on a l'impression que le gouvernement prépare l'après-confinement. Hein, et justement, qu'est-ce qui lui fait penser qu'il aura un surcroît d'activité une fois passée la période de confinement? Autrement dit, est-ce que vraiment on aura besoin de travailler plus et beaucoup plus dans certains secteurs après la période de confinement? Ça, c'est une question.
Il va essayer certainement de nous faire travailler plus, oui, après la période de confinement, et y compris en nous demandant de poser nos congés pendant le confinement. Oui, ça, c'est possible. Le problème, c'est que je pense qu'il va y avoir d'autres chats à fouetter, et par ailleurs, les gens dans les entreprises, ils ne voudront pas, tout simplement. Je pense que là, pour le coup, en plus, quand il sera demandé à ce gouvernement qu'est-ce qu'il a fait pendant la période de confinement d'immédiat pour sauver les Français, il a mis tout le monde sous quarantaine et pendant ce temps, il a passé des lois antisociales.
Oui, mais là,
voilà ce qui sera résumé de ce gouvernement.
Alors justement, là, le problème, c'est qu'il laisse la main aux employeurs. C'est ça, le gros dilemme, c'est qu'ensuite, c'est les employeurs qui apprécieront si oui ou non, ils ont besoin de faire travailler les gens plus. Alors, on l'espère, hein, sous régime d'heures supplémentaires. Espérons qu'au moins ça… puisqu'on n'a pas la version publique encore des ordonnances, hein, pour tout le dire. Bon.
Mais je pense que là, pour le coup, c'est une stupidité sans nom et je ne vois pas ces ordonnances passer au-delà de la période de quarantaine, justement.
D'accord. Ok, non,
Je
mais...
pense que là, c'est un geste qui est fait, mais je ne vois pas l'intérêt politique de faire ce qu'ils viennent de faire.
Bah, visiblement,
Après.
s'ils sont capables de l'étendre sur 9 mois, c'est qu'ils ont quand même une petite idée derrière la tête qui peuvent être de rattraper des points, soi-disant des points de PIB en faisant travailler en plus, en ayant plus d'activités.
Ils n'ont pas prévu une minute, enfin, ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas anticipé une minute cette pandémie, d'accord? Sauf pour certains de se mettre leur pognon à l'abri. Et maintenant, ils disent qu'elle va durer des mois et des mois. Si on calcule le nombre de malades, d'accord? Il est nettement supérieur aujourd'hui. Mais il faut qu'on voit si les mesures de quarantaine sur 15 jours ont été efficaces. À mon avis, elles l'ont été. Elles ont considérablement fait baisser le nombre de nouveaux cas. Ce qui veut dire que pendant ce temps que de nouveaux cas se créaient, il y a des cas qui guérissaient. L'avantage, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis de la maladie. Non, mais si,
Et ils peuvent travailler, c'est ça l'idée?
non, mais elles durent 15 jours.
Oui, et
Elles
15
durent
jours après
15
la
jours,
première
3
maladie.
semaines. Non, mais 15 jours, 3 semaines. Maintenant, c'est connu. Donc là, il y a eu 15 jours, 3 semaines de pandémie.
Oui,
D'accord?
alors
En
si on.
France. En France. Et en même temps, 15 jours, 3 semaines de. Enfin, bientôt 15 jours de quarantaine, plus ou moins, avec toutes les mesures de distanciation sociale, etc. C'est qui change la transmissibilité, ça change la transmissibilité de la maladie.
Alors, pour juste expliquer aux auditeurs, hein, si on compare par rapport à la courbe en Italie, on a 5 jours de retard, hein, sur la courbe à peu près entre les mesures de confinement et on en a une dizaine sur le développement de l'épidémie. Il faut savoir qu'en fait, en Italie, ils viennent à peine au 28e jour, au 30e jour de l'épidémie, ils viennent à peine d'atteindre ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire le moment où les morts par jour n'augmentent plus. Et commence légèrement à décroître. Mais on ne sait pas combien de temps en fait va durer ce seuil épidémique. Donc c'est ce qui fait dire en fait que les effets du le confinement aura peut-être un effet qu'on ne peut pas mesurer encore, mais qu'en tout cas l'épidémie pourrait être appelée à durer encore, en tout cas les mesures de confinement et l'épidémie qui va avec pourraient être appelées à durer en fait bien plus que 15 jours. D'où le fait que il est possible hein, que le confinement dure au moins un mois, si ce n'est pas un mois et 2 semaines, tel que le laisse entendre le gouvernement. Donc ça, ce qui pose une question hein, par rapport à ce qui s'est passé en Chine. En Chine, pour arrêter l'épidémie, ils ont été contraints d'arrêter la production et de fermer les usines. C'est-à-dire que tout le monde reste chez soi. En Italie, il y a déjà des grèves pour demander à ce qu'on arrête la production. Et en France, on fait passer des lois qui finalement, si elles sont applicables immédiatement, exposent bien plus les salariés qui continuent à travailler et qui sont eux à la fois vecteurs et en capacité d'être contaminés. Donc justement, est-ce que c'est pas à rebours, en quelque sorte, de ce qu'il faudrait faire pour, entre guillemets, juguler l'épidémie? Et c'est une vraie question qu'on peut se poser. Finalement, le gouvernement reste dans une forme de logique ou reste dans une forme de logique libérale, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire travailler plus les gens qui travaillent déjà, ou alors par la suite envisage très sérieusement de permettre pendant plusieurs mois aux employeurs de faire ce qu'ils veulent avec leurs salariés au nom d'une croissance
Oui, mais
retrouvée.
il y a un paradoxe dans l'histoire. Ils n'obtiendront rien tant qu'ils n'arrivent pas à démontrer l'efficacité d'un certain nombre de politiques de décroissance. D'accord? Donc les gens ne retourneront pas au boulot de manière franche tant qu'on ne les aura pas rassurés sur le devenir de l'épidémie. Donc en fait, ils sont obligés de produire des résultats qui ne sont pas dans le domaine qu'ils demandent. On ne leur demande pas de réformer une énième fois le code du travail, on leur demande de faire décroître un taux de contamination. Et là, leurs politiques sont évaluées en temps réel. En temps réel. C'est-à-dire que tout le monde regarde ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et le rapport aux faits, y compris ce qu'ils ont fait dans un passé récent. Ce qui est surprenant, c'est que là, Trump, par exemple, aux États-Unis, est coincé par son passé récent de tweet. C'est-à-dire que toute la phase de déni préalable qu'il a aligné au début, lui est maintenant revenu en pleine gueule au moment où il blablate. Mmh. Il est en train de se faire, il est en train de se faire, les médias sont en train de se détourner de lui en plus. Mmh. Il fait le mec qui blablabla dans son parc à jouets, qui sait rien du tout de ce qui est en train de se passer, et ça se voit.
Oui, enfin, sauf qu'il met de l'argent sur la table. Beaucoup d'argent, ce qui, vu l'état du système de santé américain, semble nécessaire.
Oui, mais il va avoir un sacré problème. Le problème de Trump, c'est que son problème est devant lui. Il n'est pas comme nous encore. Les États-Unis ne sont pas encore comme nous. Ils ne sont pas encore la tête dans la vague. Ils commencent à peine. Ils en sont là où nous, on était quand on avait... ça y est, quand l'Oise était déjà impactée depuis longtemps et que le Grand Est commençait à être fortement impacté. Donc, c'est il y a... Une semaine.
Oui, ils sont à 1000 morts, mais effectivement, comparé aux États-Unis, c'est... Là,
ils sont en train de se lancer une vague absolument incroyable. Par contre, il y a une chose que je voulais préciser. Et là, par contre, ça, c'est assez grave, ça nous concerne, nous. L'INSEE est en train de rendre des informations qu'elle fait remonter, soit à travers les médecins généralistes, soit à travers les communes, sur les taux de surmortalité. En France, les taux de contamination et de décès officiels sont sous-évalués d'un facteur chacun de 2. Ce qui a peut-être l'air de rien comme ça, mais ça montre...
C'est énorme.
Voilà.
Et alors, en revanche,
ça montre où sont réellement les courbes sur lesquelles on est en train de faire les calculs. Par contre...
C'est lié aux EHPAD, hein, aux morts, aux décès dans les EHPAD, notamment. A priori, si c'est...
Dans les EHPAD, et notamment, ouais. Notamment, et les décès à domicile.
Oui, tout à fait, oui. Tout ce qui n'est pas hospitalisé.
Ça, c'est pour les décès, donc notre courbe de décès est faussée d'un facteur de 2, ce qui est énorme pour la courbe des décès. Et la courbe de contamination, malheureusement, on est à 40 000, 50 000 contaminés aujourd'hui en France. Donc, sachant que... Donc ça, c'est le facteur réel. Sachant que on peut estimer que... là, on est près du chiffre réel et que, là, par contre, la courbe a tendance à s'aplatir. Mais elle va s'aplatir à 80 000.
Oui, de cas de contamination, mais de décès, il faut encore attendre une semaine. Si on suit l'exemple italien, il faudra attendre encore une semaine.
La courbe, elle ne va pas s'aplatir de longtemps avant les décès parce qu'on va continuer à en accumuler par jour beaucoup. Ça, c'est sûr. Et par contre, bon... Je pense qu'on est en plein dans la vague où là, on est à la contamination maximale, mais on est aussi en quarantaine maximale, ce qui fait que on peut estimer que les courbes ont été moins rapides de progression, étaient moins rapides pendant ce temps, là où on était dans le flou total, et qu'un certain nombre de gens sont guéris. Et que donc, la progression du virus devrait être ralentie par le fait que les gens qui sont guéris, ils retournent en immunité, en fait.
Tout à fait, mais enfin, 40 000 contaminés sur 67 millions d'habitants, ça ne fait pas non plus ce que je veux dire. Ça ne fait pas beaucoup, finalement. Donc, il y a aussi l'hypothèse inverse, c'est que l'effet de la contamination ralentisse, l'effet du confinement ralentisse la contamination, et qu'avant que la population soit en quelque sorte auto-immune, c'est-à-dire protégée par, justement, sa propre contamination, il puisse s'écouler 4-5 mois, en quelque sorte. Mais oui, je veux dire, tout ça par rapport à la production, je veux dire, les effets de confinement, peut-être qu'ils dureront, allez, on va dire un mois et demi maximum, mais et ce qui n'empêchera pas, hein, l'épidémie de continuer à se développer, mais au moment du retour au travail, c'est dans quelles conditions on va retourner au travail, puisqu'on peut supposer qu'à partir du moment où le confinement prend fin, il y a un risque épidémique de développement de l'épidémie, des gens qui n'ont pas été en confinement, qui n'ont pas été touchés. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra expliquer aussi à la fois aux auditeurs, aux Français, c'est qu'il y a toujours un risque de contamination qui continue en retournant travailler. Voilà, donc c'est sur le côté pratique. Je sais pas, pour prendre un exemple, c'est comme le policier qui va contrôler les gens dans la rue et qui a pas de masque et qui est facteur de contamination et qui lui-même risque d'être contaminé, mais on lui dit que ce n'est pas nécessaire le masque. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc je ne suis pas sûr en fait que ces mesures, et c'est pour cette raison qu'on peut quand même légitimement se demander si ce n'est pas des mesures qui, donc d'abord qui ont été prises de façon un peu idéologique, et puis qui pourraient être prolongées si le Conseil d'État ne met pas son l'autorise, hein, s'il considère qu'on est dans la légalité.
Je pense que ce n'est pas possible parce que je ne vois pas le Conseil d'État, en fait, mais même le Conseil constitutionnel, etc., laisser passer des trucs, ça va prendre trop de temps, les choses vont se faire retoquer, d'ici là, ça va tomber à l'eau. Parce
D'accord.
que, par contre, ce qui va rester en débat, c'est le paquet économique, le volet social. Ça va rester en débat. C'est-à-dire, s'il ne fait rien, les gens vont être dans la rue. Donc, il va faire quelque chose. S'il propose quelque chose, bien entendu, il va proposer au syndicat. Enfin, je pense que les gens vont tourner dans la. On ne peut pas considérer. Honnêtement, hein, je pense que sur cette émission en particulier, effectivement, bon, on allait parler des ordonnances, etc., là, immédiates, mais ces ordonnances immédiates, ce n'est pas sérieux. Enfin, elles ne sont pas sérieuses. D'ailleurs, c'est ça qui m'interroge. Comment ils pourraient. Enfin, en fait. Je pense qu'on en revient au calcul. Macron fait la même chose que ses partenaires de droite, Trump et Johnson, sauf qu'il le fait à la faux cul à la Macron. Il le fait sans le dire. Il est en train d'accepter pour l'économie. D'accord? Alors, il a mieux joué qu'eux dans la mesure où il a commencé la quarantaine plus tôt. Et ça, les effets, effectivement, c'est prouvé. Les effets de la quarantaine sont maximisés au début. Parce qu'il casse la courbe alors qu'on en est sur des petits multiplicatifs. Et donc, pendant un bout de temps, ça se multiplie lentement.
Oui, non mais Jérôme, je voudrais pas être. Mais je t'assure que si tu compares les deux courbes de mortalité en France et en Italie, et là, donc en Italie, il y avait 5 jours de retard de confinement, le nombre de morts, enfin on suit exactement la courbe italienne, hein, mais trait pour trait, avec un léger un peu plus en France, on est même au-dessus en France si on compte les morts qui sont en dehors de l'Italie. Alors que le confinement est un effet, ça c'est sûr, parce que sinon ça serait explosif. D'ailleurs, même en Angleterre, ils ont fini par confiner les gens, ça c'est sûr. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même pas, c'est des mesures, comment dire, c'est des mesures impératives en fait.
Ben
Je veux
oui.
dire, je n'imagine pas un gouvernement censé ne pas prendre ces mesures. Donc, je veux
OK.
dire que Macron a bien joué parce qu'il a confiné les gens. Bon,
Ben, par rapport à ses, je parlais par rapport à ses ennemis de droite, enfin ses alliés de droite. C'est-à-dire, je parlais, c'est-à-dire que Macron, par rapport à Trump et Johnson, a joué plus finement. D'accord? Il a confiné plus tôt. Ben oui. Ça, il a été obligé parce que son opinion le lui demandait, hein, quelque part, plus que les deux autres. Qui pensait qu'il pouvait manipuler l'opinion à ne pas être confiné jusqu'au plus tard possible. D'accord? Mais de facto, il a accepté un certain nombre de morts. Parce qu'il n'a pas mis toutes les mesures de prévention en œuvre. Il a été prévenu à l'avance. Donc, à ce moment-là, tout était possible encore en janvier. Commande de masques, commande de produits pour pouvoir distribuer des masques à la population. Au lieu de quoi, ils ont organisé la pénurie de tout. Tu vois? Et là maintenant, on est en plein milieu d'une pandémie. Les Français sont sans masque, sans gel, sans gants. D'accord? Ils n'ont pas d'instruction pour se démerder. Ils savent pas quoi dire parce que de toute façon, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas de quoi adopter une politique qui tiendrait la route. Hein? Ça tient pas la route 2 minutes. Donc ils disent, ne faites rien, ne bougez plus. Et ils n'admettent pas qu'ils n'ont ni test. On leur demandait pas grand-chose. Vous savez qu'on n'avait pas de trucs. On demandait au moins des tests, des masques, quelque chose, un système pour dépister les gens. Et au lieu de quoi on a entendu, il faut pas se rendre au centre de dépistage parce que vous allez contaminer le centre de dépistage. Certes. Non mais c'est ça qu'on a entendu. Donc certes, alors organisez-nous un dépistage. Donc ils disent non, en fait, on dépistera que des gens qui ont déjà des symptômes.
Oui, non mais
Non mais
il
c'est.
suffit de voir comment a fait l'Allemagne pour voir la différence
Voilà.
d'effet,
Ensuite,
hein.
comment dire, le scandale, en fait, le scandale, c'est qu'on a l'impression qu'on est derrière l'Allemagne, alors qu'en fait, on est devant l'Allemagne, tu vois, en termes de nombre. Le scandale, c'est qu'ils sont en train de nous le cacher. Parce qu'en fait, en réalité, on ne procède pas à ces tests. C'est pour ça, les 40 000 dont je te parle, les 40 000 personnes diagnostiquées Covid, ils ne sont pas Covid positifs, puisqu'il n'y a pas de test pour dire ça. Ils sont diagnostiqués Covid. Le médecin le regarde, il sait que c'est ça. Il voit leur tronche. Il n'a même pas regardé, il n'a même pas besoin. C'est un médecin, il voit leur tronche. Il connaît les symptômes maintenant. Le mec lui dit, j'ai mal là, il fait, ok, c'est bon, il a Covid. Il n'a pas de quoi faire un test. S'il a de la chance, il a de quoi, il a un masque pour se protéger, il a pensé à le mettre avant, etc. Bon, généralement, ils savent se protéger, les médecins.
Oui, on parle du généraliste, là, hein, bien sûr.
On parle, oui, du... on parle du généraliste, oui, médecin. Oui, quand même. Et donc, il se retrouve avec un type qui l'a diagnostiqué Covid, mais tu peux même pas le mettre dans les statistiques. Donc, il est obligé de le tenir. Alors, il est confiné. C'est-à-dire que tous ces cas diagnostiqués ont été confinés. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt positif. Déjà, c'est une bonne chose, mais ils ne sont même pas dans les statistiques officielles et on en est déjà à double des Allemands.
Oui, tout à fait, oui. Ça,
ah ouais. Et tu vois, donc bon, c'est des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il passe ? Alors, qu'est-ce que tu veux qu'un gouvernement qui sorte de cette épreuve, discrédité à ce point, sous le regard public, avec des plaintes, il va sortir de cette épreuve avec de multiples plaintes au cul pour inaction, pour mise en danger de la vie d'autrui, pour tout ça, quoi. Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il est coincé par par toutes les conneries qu'il est en train d'accumuler sous le regard public maintenant. Donc, et au moment, à ce moment, alors c'est cerise sous le gâteau, je dirais même, pour prouver à quel point il est con. Tu vois ? Alors déjà, non, mais il commence par céder. Il cède sur le chômage, puisqu'il dit, bon, c'est gelé, on ne sait plus quand ça se tient, parce qu'il va falloir maintenant, en bonne et due forme, remettre le truc sur la table. Ce que je veux dire, ok, il a juste suspendu, c'est comme on avait dit sur les retraites, il a juste suspendu. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'il va faire quand ce sera fini et qu'il va dire, bon allez, on va se le faire, Manu, cette petite réforme des retraites.
Là, il a un atout, excuse-moi Jérôme, mais il me semble moi qu'il a un atout maître, ce gouvernement, c'est qu'il a déclaré l'état d'urgence sanitaire, ce qui lui permet, comme on l'a dit au début, de passer toutes les ordonnances avec pour seul contrôle une ratification du Parlement. Mais il les passe en bloc, et un contrôle de l'égalité, entre guillemets, du Conseil constitutionnel. C'est beaucoup pour un gouvernement qui va pouvoir, et on y est pour un certain temps, hein, dans l'état d'urgence sanitaire. Donc, il a beaucoup d'armes pour pouvoir, par la suite, diriger comme il lui semble, et faire passer ce qui bon lui semble. Et ce qui fait d'ailleurs dire à certaines personnes que finalement, l'état d'urgence sanitaire pourrait bien s'apparenter à l'état d'urgence qu'on a connu au moment des attentats terroristes, qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est, voilà, moi, je reste sur cette idée que, de toute façon, les salariés, alors pas tous, hein, vont travailler plus dans des conditions qui vont être quand même difficiles, avec un risque de contamination, et que, peu importe, parce que c'est pour la France, et que, parce qu'on est en guerre, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ont écouté Monsieur Macron hier soir, je crois, et que en guerre, on est en guerre pour le PIB, pour les recettes fiscales de notre gouvernement et pour le travail, etc., etc.
La famille et la patrie, ouais.
Occasionnellement, mais enfin bon, voilà. Et voilà, mais l'avenir nous le dira. Et je propose, de toute façon, on fera évidemment des prochaines émissions sur le sujet, parce que je crains qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire, et notamment en fait sur la situation des gens qui continuent à travailler, puisque au moins l'occasion de cette épidémie, c'est de voir les gens dont le travail n'est pas finalement aussi nécessaire que ça, puisqu'ils peuvent rester au bureau, et les gens qui, par contre, dont le travail est tellement nécessaire que même en période d'épidémie, ils doivent continuer à travailler. Et donc, à ces gens-là, peut-être que c'est aussi ces gens-là qu'il faut applaudir chaque soir à 8h. Voilà, et ben je vous remercie à vous. C'était un intermède proposé donc par l'émission Mode d'emploi concernant les ordonnances qui réforment le code du travail, qui sont passées, je le rappelle, mercredi 25 mars et qui seront bientôt adoptées. Merci à vous.